Bonjour Thomas Hull.
Bonjour Mélanie.
Alors, avant de rentrer dans le détail de l'intérêt des stages de jeûne pour notre santé, d'abord un mot peut-être sur la pensée sauvage. C'est un concept que vous avez créé, c'est quoi ?
Alors, la pensée sauvage, c'est l'occasion de pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir se retrouver en pleine nature et vivre une expérience un petit peu hors du commun, partagée avec d'autres, où on mange moins, voire plus, et où on marche.
Alors, justement, parmi vos activités, vous proposez des stages de jeûne, de détox et de randonnée. C'est quoi brièvement ces stages ? Ça s'adresse à qui ?
Alors, les stages de détox, c'est principalement adressé aux personnes qui sont en bonne santé et qui ont envie finalement d'avoir une meilleure hygiène de vie et faire en sorte d'avoir plus de vitalité. Ça s'adresse également aux personnes qui commencent à avoir des légers problèmes de santé et qui se disent « Tiens, peut-être que mon hygiène de vie est en cause finalement dans ces problématiques-là ». Et la plupart des personnes qui viennent vraiment avec cette envie, cette recherche d'améliorer leur quotidien.
Jimmy ?
Et vous proposez apparemment ces stages depuis 13 ans et vous avez l'impression que l'engouement augmente, que la demande explose, que c'est un peu un phénomène à la mode ou que ça va au-delà de ça ?
Ça va bien au-delà. En fait, c'est vrai que la demande augmente. En 13 ans, nous, on a commencé il y a 13 ans avec 6 semaines. Aujourd'hui, on est quasiment à 80 semaines de séjour proposés. Donc, il y a une grande demande qui est grandissante et on voit même d'autres centres qui existent et qui fleurissent de plus en plus. Et en fait, la demande aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment liée au besoin et à vraiment ce besoin que les personnes ressentent de se mettre au vert. Les personnes qui viennent aujourd'hui arrivent vraiment en cure et lors des débuts de séjour en disant « j'ai besoin de poser mes valises ».
De déconnecter.
J'ai besoin de déconnecter, j'ai besoin de respirer.
Justement, dans vos cures, je crois que ça se passe notamment dans le Vercors, là où vous avez un centre, effectivement. Est-ce que le cadre, il a son intérêt pour mettre ses intestins au repos ?
Alors, le cadre joue énormément. Il est vrai que si on faisait un jeûne en ville, dans son quotidien, et c'est tout à fait faisable, on n'en a pas du tout les mêmes bienfaits in fine. Et c'est vrai que d'avoir un cadre qui nous permet d'avoir une rupture, avec, pour la plupart des personnes avec le monde urbain, permet vraiment une reconnexion, permet de souffler, et permet de se contempler également et de se nourrir autrement.
Et justement, vous proposez, vous, donc des stages de jeûne, mais aussi des détox, c'est-à-dire des cures où on va manger un petit peu, par contre, hein, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que tout le monde ne peut pas jeûner et qu'il est très important d'individualiser la cure en fonction des besoins. Ainsi, une personne qui n'est pas prête à jeûner, on peut la passer en ce qu'on appelle une monodiète ou même encore une détox végétale où la personne va manger des fruits et des légumes bien préparés, et ce qui permet également de repartir chez soi avec tout un tas d'idées et de se dire tiens, finalement ce n'est pas si compliqué de pouvoir manger des légumes, de pouvoir manger des fruits d'une certaine façon et d'une façon du coup saine pour sa santé.
Aujourd'hui on parle des bénéfices des stages de jeûne et de détox, mais d'abord avant de rentrer dans le détail, est-ce que vraiment tous aujourd'hui en France globalement et même dans tous les pays industrialisés, vraiment on mange trop ?
Bien évidemment Mélanie, on mange beaucoup plus qu'il ne faut, un, par habitude, et aussi surtout par compensation. Souvent par compensation à nos stress, à nos façons finalement de nous relationner ou à nos émotions, on mange bien plus qu'il n'en faut, on est même plus connecté à nos besoins. Et souvent, même le sentiment de satiété, on ne sait plus ce que ça veut dire. Mmh. On a un sentiment de « j'ai trop mangé ». Et on a presque de la culpabilité derrière.
Et justement, ces stages, ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure, justement,
oui.
de ressentir de nouveau
exactement.
Cette satiété. Ouais, justement.
L'intérêt après, justement, un séjour de jeûne, c'est de pouvoir ressentir ce sentiment de satiété, de finalement se rééduquer à ce sentiment-là, et de se rendre compte, finalement, au cours d'un repas, on peut à la moitié ne plus avoir faim.
Alors, on va rentrer dans le concret maintenant, dans les stages, là justement, notamment ce que vous proposez. D'abord, au départ, on s'inscrit, et je crois que vous faites quand même remplir un questionnaire de vitalité, vous allez nous expliquer ce que c'est, parce que tout le monde ne peut pas jeûner, hein, c'est ça ?
Exactement. Au préalable, quand une personne vient pour faire un séjour, on se renseigne sur quel est son parcours, quels sont ses besoins, et quelle est également sa physiologie.
Et donc ?
Et donc, oui, en effet, ce questionnaire, ce bilan de vitalité est un indispensable pour pouvoir orienter la personne qui souhaite, par exemple, faire un jeûne. Il nous arrive, en amont, de pouvoir dire à une personne, écoutez, vous ne pourrez pas jeûner.
Parce que vous êtes trop maigre, par exemple ?
Oui, parce que justement, il y a une problématique de poids ou quelqu'un qui fumerait, par exemple, 3 paquets de cigarettes par jour, on lui dira, écoutez, avant de vouloir venir jeûner, il va falloir petit à petit travailler ses addictions avant de se rajouter un autre stress.
Jimmy ?
Et cette préparation, vous appelez ça, ça s'appelle la descente alimentaire.
Exactement.
Vous pouvez expliquer ce que c'est ? En gros, c'est on se prépare finalement à ne plus rien manger ?
Alors oui, et cette préparation est essentielle. Car si on changeait son alimentation du jour au lendemain, le corps vivrait un grand stress et se dirait, mais qu'est-ce qui se passe et comment je dois réagir ? Et là, on aurait beaucoup de mots finalement d'adaptation. Donc cette préparation consiste simplement à enlever petit à petit, par exemple, les excitants, donc notamment le café, les sucres,
3-4 jours avant, quoi,
oui,
c'est ça ?
5 jours, on commence 5 jours avant. Et cette préparation progressive où on enlève notamment ces excitants qui, quand on les enlève subitement, génèrent des maux de tête, génèrent tout un tas de phénomènes finalement de désadaptation au niveau du corps. On enlève petit à petit les protéines alimentaires, les céréales pour ne manger plus que des légumes et des fruits.
Quand on arrive chez vous, à votre stage, on ne mange plus que des légumes et des fruits,
exactement,
c'est ça ?
Pendant deux jours, on dit à satiété, donc on n'a pas de problématique de faim, mais on peut manger à satiété des légumes et des fruits. Et c'est vrai que c'est assez facile à faire finalement, qu'on soit qu'on travaille, qu'on soit en repas, qu'on soit à la famille. C'est assez facile à réaliser. Et ce passage-là est indispensable pour finalement rentrer dans une cure avec cette sensation de ne pas avoir faim.
Et donc j'arrive, j'ai commencé ma descente alimentaire depuis 5 jours, je ne mange plus que des fruits et légumes. J'arrive, c'est le premier jour de stage. Vous me recevez pour faire un bilan d'abord.
Alors, oui, vous avez un naturopathe qui vous reçoit. Pendant 3 quarts d'heure, on fait le point sur vos attentes, vos objectifs et on vérifie une fois de plus si la cure que vous souhaitez vivre est bien adaptée à vos besoins. Car jeûner, c'est également un stress physiologique pour le corps. Il ne faudrait pas que ce soit un challenge de trop qui vous épuise, mais au contraire qui vous apporte de la vitalité.
Jimmy ?
Et puis, je suppose que vous faites quand même attention aux antécédents du patient. Vous devez peut-être finalement recaler certains qui ne seraient pas aptes. Je pense à, par exemple, des patients diabétiques sous insuline mal équilibrée, des pathologies psychiatriques ou autres. Ça vous arrive de dire non, on ne vous accepte pas ? Et c'est peut-être d'ailleurs un gage de qualité. Une structure qui sait dire non, c'est peut-être une structure en qui on peut avoir confiance.
Essentiel. Ça nous est déjà arrivé, par exemple, au sein de ces bilans de vitalité, d'avoir des personnes avec des problématiques de poids qui n'avaient pas rempli le bon poids, justement. Et quand on les a vus arriver, en leur disant « Mais écoutez, madame ou monsieur, vous ne pourrez pas jeûner chez nous. » vu l'IMC que vous avez. Et ça nous est arrivé de ramener des personnes à la gare. On a eu également des fois des personnes en décompensation psychiatrique et qui n'étaient pas traitées, en leur disant « Écoutez, nous ne sommes pas le lieu pour pouvoir vous recevoir, nous ne sommes pas habilités et même pas compétents pour pouvoir accompagner à ce moment-là. »
Dans ces cures de jeûne, vous proposez donc évidemment du jeûne, donc on ne mange pas. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité pour toute cette semaine ? On fait quoi ?
Alors, on commence le matin par du yoga. Un réveil musculaire qui permet justement de remettre tout le corps en mouvement et également d'appréhender son corps, quelque chose qu'on ne fait pas toujours au quotidien. Ensuite, on part marcher et la marche est un moment très important quand on jeûne ou quand on fait une détox et on marche entre 6, 12 voire 15 km par jour.
Et ensuite, on peut avoir aussi d'autres activités. Vous proposez aussi de la méditation.
Exactement, ouais. Méditation, des ateliers de cuisine même pour apprendre et comprendre qu'est-ce qu'on pourrait manger après en rentrant chez soi. Des conférences également sur les conseils en naturopathie ou également comprendre que nous sommes ce que nous mangeons.
Alors, on va continuer à parler de ces cures de jeûne et des bénéfices qu'on peut en entendre sur l'organisme. Vous restez avec nous surtout, Thomas Hull. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, Thomas Hull, naturopathe et fondateur de la Pensée Sauvage. Alors, avec vous aujourd'hui, Thomas, on fait le point sur ces cures de jeûne et de détox que vous proposez d'ailleurs dans le Vercors. On a vu que ça se prépare, une cure de jeûne. Il faut d'abord faire quelques jours de descente alimentaire. Et puis, bon, disons, on a commencé. Donc, quand on jeûne, ça y est, je commence une semaine de stage avec vous. Qu'est-ce qui se passe dans mon organisme les premiers jours ?
Alors, assez étonnamment, le corps a prévu au cas où que nous n'ayons pas mangé. Ainsi, le corps a stocké du sucre dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. Ainsi, les premières 24 heures à 36 heures, on passe dans ce qu'on appelle la glycogénèse et le corps transforme tout simplement ce sucre stocké. Et le grand étonnement, c'est de se dire, tiens, j'ai même pas faim et tout va bien. Ça peut se corser au bout de 24 heures à 36 heures et on passe dans une fameuse crise d'adaptation où le corps doit aller chercher un peu plus loin. Et là, c'est au grand étonnement du corps qui se dit « mince, il continue, comment je vais faire ?» Et là, on passe dans la transformation des graisses en sucre, ce qu'on appelle la néoglycogénèse. Une fois qu'on est rentré dans cette vitesse de croisière, on rentre dans ce qu'on appelle une capacité à pouvoir jeûner un certain temps. Il est dit qu'un être humain d'1m70-70 kg aurait 40 jours de réserve de graisse devant lui sans se mettre en danger. Un être humain 1m70-90 kg, 100 jours de réserve de graisse devant lui.
Jimmy ?
Effectivement,
c'est fou, hein,
oui, c'est fou, ouais. Comme quoi. Mais finalement, durant la première phase, les 48 premières heures, on peut ressentir des effets secondaires, des maux de tête et avoir du mal à passer le cap. Qu'est-ce qu'on peut ressentir concrètement comme symptômes ?
En effet, on le sent après ces fameuses 24 heures, 36 heures de glycogénèse. C'est au passage de la néoglycogénèse. Et on a un sentiment, je dis souvent cette sensation que disent très bien nos adolescents, de se sentir au bout de sa vie. C'est-à-dire que monter un escalier...
J'ai trop faim, je suis au bout de ma vie.
On voit bien la suite, ça parle.
Ça, j'imagine.
Et on peut être vraiment un sentiment de « Ouh là là, monter un escalier, mais comment je vais faire ?» Et c'est également des sentiments des fois de nausée ou de tachycardie ou de maux de tête. On n'est pas très bien. Et c'est vraiment le jour où il faut au contraire aller marcher, s'oxygéner. Et c'est là où l'effet de groupe, quand on participe à une cure de jeûne, est très important. Car seul, qu'est-ce qu'on ferait ? On resterait sous sa couette et on laisserait passer le temps. Le seul problème, c'est que 5-6 heures après, on est toujours dans le même état. À l'inverse, quand on sait qu'on a d'autres collègues qui vivent la même chose et qui sont en train de vous attendre pour aller marcher, on se sent un petit peu, entre guillemets, obligé d'y aller.
Et on souffre tous ensemble.
Exactement, mais ça crée des liens. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au bout de 10, 15, 20 minutes de marche, on a complètement oublié cet état-là. Alors, simplement parce qu'on a remis en circulation tous les fluides dans le corps, qu'on respire, et du coup, on passe largement cette crise finalement d'adaptation avec grande facilité.
Alors quand on jeûne, on ne mange pas a priori, oui. Hein, c'est le principe, mais par contre boire c'est primordial et boire beaucoup même.
Alors boire est essentiel. Un être humain élimine 3 litres de liquide par jour. Dans notre quotidien, on a à peu près 1,5 litre qui est apporté par les boissons et 1,5 litre qui est apporté par l'alimentation que l'on consomme. Quand on s'abstient de manger, évidemment on doit avoir au moins 3 litres de liquide apporté par jour.
Donc de l'eau ?
De l'eau, principalement, des tisanes, des jus de fruits dilués pour certains et des bouillons de légumes sont très intéressants.
Jimmy ?
Et tout d'abord, vous parlez donc de l'effet de groupe. Et je repense par exemple à ceux qui peuvent pratiquer le ramadan ou le carême. Finalement, le fait d'être ensemble et d'accomplir, avoir le même objectif, ça aide vraiment. Donc c'est vraiment plus simple cet effet d'être en lien social.
Bien sûr, on le partage. Vivre seul, finalement, une absence de nourriture, ça peut être très difficile à vivre. À l'inverse de le partager, crée beaucoup également d'intimité et on partage une zone inconnue. Pour la plupart des personnes qui n'ont jamais jeûné, se disent « mais tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis on partage des zones d'intimité qui sont parfois assez incroyables.
Et quel bénéfice on peut en attendre de cette semaine de jeûne ? Par exemple, je fais un stage, comment je vais me sentir après ? Je suis plutôt en bonne santé au départ. C'est quoi les bénéfices attendus ?
Le grand bénéfice, c'est de la sérénité, de la clarté d'esprit et surtout de la vitalité.
Donc vous ne guérissez pas le cancer. Il y en a certains qui promettent ça, ce sont des charlatans évidemment. Donc là, qu'est-ce que vous promettez?
Alors là, c'est vraiment le moyen de prendre soin de soi. En fait, quand on fait une cure de jeûne, c'est un moyen habile de pouvoir prendre plein de ressources pour pouvoir vraiment changer ce qu'on voudrait améliorer dans notre vie. C'est une façon de faire une forme de retraite, de se poser les questions essentielles. Où est-ce qu'on en est dans sa cohérence, dans son chemin de vie? Et le jeûne permet de repartir boosté physiquement, psychologiquement et émotionnellement.
Et il y a aussi des bénéfices quand même sur la santé, certains en tout cas qui ont été montrés, notamment on a moins de douleurs par exemple, c'est ça ?
Oui, alors on a un aspect anti-inflammatoire qui est très intéressant, notamment par la mise au repos du système digestif, qui n'est pas sursollicité, donc le corps a le temps finalement de calmer ses inflammations, également d'apaiser les problématiques articulaires, de réguler les problématiques de tension, donc on a de nombreux bienfaits bien sûr qui se cumulent.
Jimmy ?
Et ce jeûne, faudrait le faire tous les combien de temps ?
Alors idéalement au moins une fois par an, et si on le peut, 2 fois par an.
Et combien de jours on doit tenir ?
Au moins 5 jours. Au moins 5 à 6 jours pour en avoir les bienfaits. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il existe plein de formes de jeûne. Du jeûne intermittent au jeûne de prévention, qui est du jeûne moyen. On peut avoir vraiment un jeûne pour tout le monde, entre celui qui jeûne 16 heures de temps en temps, voire tous les jours, et entre celui qui se dit, bah, tiens, tous les 6 mois, je mets vraiment mon corps au repos, je prends une semaine de pause et pendant 5 jours, je ne mange pas.
Et alors justement, quand on fait ces stages, donc on termine cette semaine, on est dans quel état à la fin et on se remet à manger tout de suite ?
Alors non, justement, on prend vraiment le temps de réintroduire. À l'exactitude finalement de la préparation alimentaire, on doit faire une reprise alimentaire progressive. Et au plus la reprise alimentaire est progressive, au plus les bienfaits durent dans le temps. Et c'est même une mise en danger potentielle de reprendre trop rapidement l'alimentation.
Ils sont dans quel état à la fin, les stagiaires ? Les curistes, je ne sais pas comment vous les appelez.
Ils ont le sourire, les yeux qui pétillent.
Ils n'ont pas faim.
Ils n'ont pas faim. Alors, on donne souvent ce jeu de mots qui n'est pas une mauvaise blague, mais on finit souvent un jeûne en restant sur sa faim. Et il vaut mieux finir un jeûne en ayant encore la sensation qu'on pourrait continuer, qu'à l'inverse, finir un jeûne en ayant les crocs et se disant oh, « pourvu vite que je mange ».
Combien ça coûte quand même tout ça ? Puisqu'on voit un peu partout maintenant et puis il y a des tarifs plus ou moins élevés. Chez vous, par exemple, une semaine, ça coûte combien ?
Alors,
on
commence à 1400 euros et après, on grimpe en fonction de la catégorie de chambre ou de cure que l'on
prend. Après, il y a aussi la partie hôtellerie, évidemment, qui reste à prendre en compte.
Et il est vrai, pardon Mélanie, que l'accompagnement est un point important. Et pour donner un conseil finalement à nos auditeurs, soyez attentifs à la qualité d'accompagnement.
Dire, comment on sait qu'on n'est pas tombé sur des charlatans ?
Le nombre de personnes qui vous accompagnent, leur professionnalisme, des naturopathes, également des accompagnateurs diplômés en randonnée, un ensemble de praticiens qui vont être là pour offrir toute leur qualité finalement au séjour.
Merci beaucoup. Et puis, pas de fausses promesses également, hein, c'est ça ?
Exactement.
Vous ne promettez pas de guérir des maladies ?
Le jeûne est un moyen d'eux. Et ensuite, c'est le changement de vie, finalement, le changement d'hygiène de vie qui peut être précurseur de nombreuses choses.
Merci beaucoup Thomas Hull d'être venu sur notre plateau.
C'est moi. Merci
grâce à vous, on en sait plus hein, sur ces cures de jeûne, des détox aussi. On a compris que ça ne s'improvise pas, qu'il vaut mieux être entouré de gens qui s'y connaissent. D'ailleurs, c'est un bon moyen d'éviter justement les charlatans. Pour des bénéfices donc testés et approuvés par la majorité de vos participants, la plupart parlent d'une vitalité retrouvée et d'un mode de vie ensuite changé durablement. Merci encore. Votre émission Sans Rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de lessive. Vous, justement, comment choisissez-vous votre lessive ? Êtes-vous vigilant vis-à-vis des substances qu'elles contiennent ? Savez-vous si certains produits dedans sont dangereux pour votre santé ? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
J'essaie de prendre quelque chose qui sent bon.
Une lessive qui va être adoucissante, qui va respecter le linge. Aussi, je vais regarder si elle est écologique. parce que c'est important quand même, il y a des eaux usées qui vont partir quand même dans les égouts et tout ça, dans la mer.
Alors c'est peut-être pas bien ce que je fais, mais moi c'est plus au niveau du parfum.
Après je fais pas spécialement attention, j'aime bien la lessive liquide.
Faut qu'elle soit plus bio, je fais maintenant attention à tout ce qui est écologique. Par exemple j'en achète où elle se dissout complètement dans la machine à laver et c'est pas un plastique qui reste à côté.
C'est bizarre parce que je fais plutôt attention pour le bio, pour ce qui est plutôt la nourriture ou des choses comme ça, mais j'avoue que les lessives, je fais vraiment pas du tout attention. Je connais pas trop les produits qui sont forcément néfastes pour la peau.
Il y en a, ils peuvent faire des réactions, des rougeurs par rapport au fait qu'il y ait des produits, je pense, chimiques dedans.
Enfin, pour les personnes qui ont des peaux sensibles où ça doit être un peu allergène ou des choses comme ça.
Il y a certains ingrédients qui peuvent donner des allergies au niveau du corps, donc faut faire hyper attention.
Bon Jimmy, pour parler des lessives aujourd'hui et de leur potentiel risque pour la santé, on va s'appuyer sur l'étude de 60 millions de consommateurs qui est parue dans son dernier numéro. Comme d'habitude ils le font, ils ont fait un banc d'essai, c'est ça des lessives.
Exactement,
hein,
échantillon de 15 références de lessives liquides et 10 sous forme de capsules, plutôt à la mode et moi je les utilise aussi.
Moi aussi je prends des capsules maintenant.
Et donc pour faire passer ces tests, ils ont évalué l'efficacité en termes de lavage, mais nous on va s'intéresser plutôt à la partie sanitaire de l'évaluation et pour ça, ils ont utilisé le Ménage Score, un système de notation qui a été mis au point par les ingénieurs. Ça permet de noter notamment les produits, notamment en termes de toxicité liée à leur composition.
Bon, en même temps, une lessive, c'est quand même un produit ménager. Donc, qui dit produit ménager, dit produit chimique, peut-être toxique pour la santé. C'est pas très étonnant, sachant qu'on n'est pas là pour les avaler, a priori. Hein.
Effectivement, mais c'est vrai que quand on dit produit chimique, il y a malgré tout certains qui peuvent être plus dangereux que d'autres pour la santé. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que certains, on va aller ensuite porter des vêtements, donc il y aura toujours des traces,
des résidus lessive,
notamment
oui,
sur la peau, et donc il peut y avoir un risque, notamment du côté allergique.
Bon, alors dites-nous ce que montre cette enquête, du coup.
Alors, parmi les 25 lessives testées, 15 contenaient au moins une substance parfumante, allergisante, qui ont été révélés dans la composition. On va citer une marque, je vous renvoie tout simplement au magazine 60 millions de consommateurs avec leur enquête qui est vraiment intéressante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'acheter du bio, un label éco ou bio, eh ben, ce n'est pas forcément gage d'absence d'allergie.
D'accord.
Et donc, il peut y avoir un petit côté trompeur à ce niveau-là.
Et donc, vous dites qu'il y a des substances parfumantes allergisantes, mais est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qui posent problème dans ce qu'ils ont découvert du coup dans la composition des lessives ?
Oui, cette enquête montre aussi la présence de certains conservateurs qui, eux aussi, sont très allergisants. 10 lessives liquides ont été analysées et contenaient cependant, 10 des lessives qui ont été analysées en contenaient et cependant n'avaient aucune. Non, celles qui avaient celles en capsule n'avaient aucun trace de conservateur. Et c'est pas tout. Ils ont aussi retrouvé dans beaucoup de marques des enzymes irritantes et toxiques pour les voies respiratoires. Donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à cette enquête, notamment si vous êtes asthmatique ou allergique dans votre foyer.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Massin.
Bonjour.
Alors, avant de nous expliquer comment on peut préserver sa fertilité et vérifier ses propres capacités à concevoir un enfant, d'un point de vue général, quel est l'état de la fertilité en France ?
Alors, elle baisse clairement puisque les chiffres de la natalité montrent que depuis 4 ans, il y a une baisse du nombre d'enfants qui sont nés. Et le taux de fertilité des femmes qui était autour de 2 il y a encore 5 ans et aujourd'hui autour de 1,9. Alors, c'est lié à plusieurs raisons. D'abord, la baisse du nombre de femmes qui sont en âge de faire un bébé. Et puis, beaucoup aussi des raisons sociétales de retarder le projet de bébé. Et évidemment, quand on retarde son projet de bébé, on a également
moins au final.
Voilà, exactement. On en a moins au total. Et puis, on a aussi moins de chances et on a plus de risques de rester sans enfant. Donc ce recul de l'âge à la maternité, il est bien démontré avec aujourd'hui un âge autour de 28 ans et demi pour le premier enfant, alors que c'était 24 ans et demi dans les années 70.
Jimmy ?
On parle là de la fertilité des femmes, mais qu'en est-il de celle des hommes ? Est-ce qu'elle baisse aussi ?
Alors oui, tout à fait. Forcément, les deux sont corrélés, hein, puisqu'il faut un homme et une femme pour faire un bébé, enfin jusqu'à aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Donc c'est bien montré, et pas seulement en France, au niveau international, qu'il y a une baisse depuis plusieurs années de la qualité des spermatozoïdes. Et en l'espace de 40 ans, la concentration en spermatozoïdes dans le sperme des hommes a été divisée en gros par deux. Et l'Organisation mondiale de la santé a dû même revoir les normes du spermogramme pour que ça corresponde plus à la réalité des faits.
Ça veut dire quoi, revoir les normes ? C'est-à-dire qu'avant, on considérait qu'on était normal avec combien de spermatozoïdes ?
Avec 30 millions de spermatozoïdes par millilitre et aujourd'hui à 15 millions de...
Ah oui, la moitié quand même.
Tout à fait.
Alors,
oui.
La moitié moins, on considère que vous êtes normal parce que c'est à peu près ce qu'ont tous les hommes en moyenne. C'est
voilà,
ça,
et on a montré qu'effectivement, cette diminution de la qualité impactait sur les chances d'obtenir un bébé ultérieurement.
Si l'OMS fait ça et change même les recommandations de normes, entre guillemets, ça veut dire que c'est pas qu'en France, cette baisse de la fertilité, elle est valable, enfin, chez les hommes en l'occurrence.
Oui.
ailleurs, dans d'autres pays ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est valable au niveau... En tout cas, là, c'est une grosse étude qui avait été faite en Angleterre qui montrait sur, je ne sais plus, 43 000 hommes, cette baisse certaine. Ça, c'est pas retrouvé qu'en Europe, d'ailleurs.
Alors, professeur Massin, cette baisse de la fertilité des femmes, d'abord, on vient d'en parler, on peut l'expliquer, vous disiez, par le fait que les femmes donc, font leurs enfants plus tard, ça, vous l'avez dit, mais c'est vraiment... un problème, j'allais dire, de votre côté, de votre point de vue de médecin de la reproduction, ça ou pas ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a deux choses qu'il faut bien différencier pour les femmes. Il y a la quantité des ovules et puis la qualité des ovules. Alors ça, la quantité des ovules, on a un stock à la naissance et puis on va perdre au fur et à mesure ce stock jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus et à ce moment-là, on ne pourra pas concevoir. C'est un capital, on va dire, fertilité, comme on a un capital soleil
pour la pompe.
Voilà, exactement. Et donc après, ça veut dire que les cellules qu'on va utiliser pour concevoir, ça va être des cellules qui vont avoir notre âge. Et ça, c'est la qualité. Donc l'âge de la femme est en rapport avec la qualité des ovules de la femme.
Donc sans vouloir les presser, ça reste quand même très important.
Exactement,
l'âge.
Exactement, ouais. La cellule vieillie, et une cellule qui est vieillie, bien, elle est moins apte.
Jimmy ?
Et pourtant avec l'espérance de vie qui s'allonge, on a donc plus de temps pour faire des enfants, mais l'âge de la ménopause, lui, ne se décale pas pour autant. C'est-à-dire que finalement, une fois que l'heure est passée, elle est passée.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une étude très très récente qui est sortie sur 300 000 Norvégiennes qui vient de montrer que l'âge de la ménopause a été décalé de 3 ans.
Ça, c'est bien, alors ?
Oui, ben, oui et non, parce qu'en fait, ce n'est pas pour autant que la vie reproductive va être décalée, puisqu'on sait que la qualité dépend beaucoup de l'âge. Et donc, ben, pour donner un exemple très précis, à 40 ans, il n'y a à peu près que 15% des ovules qui sont de bonne qualité, et ça diminue ensuite très rapidement. Donc, ce n'est pas pour autant que la ménopause est décalée que la qualité reproductive sera encore là plus tardivement.
Là, on a parlé des femmes. Est-ce que c'est pareil chez les hommes ? Parce qu'on a l'impression, effectivement, que les hommes, eux, ils n'ont pas d'horloge biologique, ils peuvent faire des bébés jusqu'à n'importe quel âge. En vieillissant, ils deviennent quand même un peu moins fertiles, même s'ils n'ont pas... Bon, ils ont l'andropause, mais à 60 ans, on peut encore procréer si on est un homme, a priori.
Exactement, c'est ça la différence, parce que les hommes sont encore capables de produire des spermatozoïdes très longtemps, hein, jusqu'à la mort. Mais il y a un impact sur les chances de grossesse et aussi sur la santé des enfants, puisqu'on sait que, ben, avec un père qui prend de l'âge, eh bien, par exemple, le risque de fausse couche augmente et de certaines anomalies chez les bébés également.
Et j'avais vu effectivement qu'il y avait même des études qui montraient des risques d'autisme avec des papas plus âgés, parce qu'on parle souvent des femmes plus âgées, on sait qu'il y a le risque de trisomie 21 qui augmente, mais un homme âgé aussi, il y a des risques pour l'enfant, hein,
oui,
quand même. C'est de plus en plus prouvé.
Oui,
hein. Jimmy ?
Notre facteur de risque, apparemment le tabac, c'est pas terrible pour la fertilité ?
Oui, exactement. Alors ça joue et chez l'homme et chez la femme. Donc c'est très simple. Hein. On peut résumer ça en disant que tout simplement, un homme ou une femme qui fume va mettre deux fois plus de temps à concevoir qu'un couple qui ne fume pas. Et on voit ça dans la fertilité naturelle. Et puis on voit ça aussi dans nos techniques d'assistance médicale à la procréation. Où on voit très bien que les chances qu'un embryon s'accroche eh bien, sont deux fois moins importantes. Et donc il faut deux fois plus de tentatives. Alors, ça ne veut pas dire que les fumeurs ne peuvent pas avoir d'enfants, mais ils mettront plus de temps. Et s'ils additionnent d'autres facteurs qui sont négatifs, bah ça recule d'autant l'arrivée du bébé.
Il y a un autre facteur qui est très important dans la fertilité, je crois, enfin vous allez dire si je me trompe, l'environnement, je crois, aurait un rôle, et notamment l'exposition à des pesticides ou à des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est décrit, c'est prouvé, il y a un impact sur notre fertilité ?
Oui, oui, il y a énormément d'études chez la souris, et donc ça représente l'environnement au sens large, donc c'est à la fois ce qu'on mange, les produits qu'on utilise, les produits cosmétiques qu'on utilise, les produits chimiques auxquels on est exposé dans le travail ou à la maison avec les produits ménagers. Donc tout ça va jouer sur notre fertilité. On a un bon exemple avec, donc pour les perturbateurs endocriniens, le bisphénol A. Qui était présent donc dans les plastiques qu'on mettait à l'intérieur des boîtes de conserve et dans les tétines de bébé.
Enfants,
et donc en fait,
sûr.
C'est un perturbateur endocrinien. Ça veut dire quoi ? C'est une molécule qui va mimer une hormone et qui va remplacer l'hormone, donc avec un effet excessif ou qui va bloquer l'action de cette hormone. Et on sait que c'est un retentissement sur la fertilité des hommes et la santé des enfants après à distance.
Jimmy ?
On parlait aussi des ondes électromagnétiques, mais apparemment le portable, ce ne serait pas terrible non plus.
Oui, alors là, il y a des études qui sont plutôt discutées. Ce qui est sûr, c'est que le portable et tout ce que ça comprend, c'est vraiment un tue-l'amour. C'est-à-dire on voit que les forts utilisateurs ont moins de rapports et donc forcément moins de bébés. Sur le portable, je parlerais plutôt de l'ordinateur et en particulier de ces hommes qui travaillent avec l'ordinateur posé sur le bas-ventre pendant des heures.
C'est quoi le problème ?
Qui est une source de chaleur et le testicule déteste la chaleur pour travailler. Et donc, du coup, la production des spermatozoïdes est diminuée dans ces cas-là.
Donc rien de chaud au niveau des testicules, c'est très, très, très...
Voilà.
Pas du tout conseillé.
Non, c'est pas conseillé. essayer, voilà.
Très bien, Nathalie Massin, pardon, nous allons continuer cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Nathalie Massin. Vous êtes médecin de la reproduction, responsable du centre d'aide médicale à la procréation à l'hôpital intercommunal de Créteil. Professeur Massin, dans votre établissement, vous avez donc mis en place un test baptisé Fertilité Check-up. C'est une sorte de consultation, c'est ça, enfin, où on fait quoi? Vous avez lancé ça quand déjà? Ça existe depuis combien de temps?
Alors, on a lancé ça depuis octobre 2018, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Voilà, on a reçu 500 demandes et on a fait 200 tests.
Déjà.
Donc,
oui.
C'est un bilan de fertilité en fait, qui est assez complet, puisqu'on a trois parties. On a une première partie avec une petite tablette, avec plein de questions qu'on va poser sur l'hygiène de vie, sur les antécédents médicaux, personnels et familiaux.
On va revenir sur ce que contient ce test, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Mais juste, c'est pour qui? C'est pour toutes les femmes ou c'est juste pour les femmes qui ont déjà un peu des problèmes ou une jeune femme, je ne sais pas, qui a 25, 27, 28 ans, qui se pose des questions, elle a l'idée d'avoir un bébé, mais pas tout de suite. C'est pour qui? Quel est le profil des femmes?
Oui, c'est ouvert en fait. C'est-à-dire que donc, moi, comme je travaille dans l'infertilité, finalement, le seul accès aux femmes était en rapport avec un problème médical. Donc là, on n'a pas besoin de problème médical, on n'a pas besoin d'avoir un conjoint et on n'a volontairement pas limité les âges pour que chaque femme qui se pose une question sur sa fertilité, avec un projet de grossesse actuel ou à venir, puisse faire ce test.
Jimmy?
Et ce test n'est proposé qu'aux femmes, c'est ça? C'est-à-dire que l'homme ne fait pas partie du packaging?
Vous n'avez pas besoin
d'y
aller, vous avez trois enfants, Jimmy, c'est bon.
Oui, alors...
Je crois que vous êtes rendez-vous, c'est pour ça.
C'est une bonne question, hein, comme la fertilité, ça touche un couple. Non, on l'a développé, l'hôpital intercommunal de Créteil nous a aidé à le développer pour l'instant uniquement chez la femme et il n'existe pas de test à l'intercommunal pour les hommes. Et bon, ça pourrait être fait avec un examen en ville, dans un laboratoire, un examen du sperme.
C'est plus simple chez l'homme, en fait.
Les hommes, c'est plus simple, c'est ça.
Simple, effectivement.
Il suffit
c'est
de faire
plus
quoi
simple.
Pour savoir si on est fertile?
Voilà, il suffit d'aller faire un examen dans un laboratoire. Mais...
Un spermogramme?
Exactement. Mais on va dire que le conseil avec le résultat est aussi très important. Parce qu'on fait un spermogramme, on se retrouve avec plein de chiffres et on ne sait pas forcément les interpréter.
D'accord. Alors, on va revenir au fertilité check-up. Donc, toutes les femmes, quel que soit leur âge, vous avez dit, peuvent en bénéficier. Comment ça se passe? Bon, d'abord, on prend rendez-vous, j'imagine. On vient, on bloque la journée.
Oui, alors ça prend une à deux heures maximum.
Pas la journée, pas
donc,
besoin.
Effectivement, on bloque un rendez-vous. Il faut que ça soit un moment particulier du cycle. Hein. On a une petite fenêtre d'une semaine, puisqu'on fait un test par échographie. Donc, il faut que ça soit une certaine période du cycle. Et donc, il y a un petit questionnaire qui va reprendre l'hygiène de vie globale, les antécédents et la motivation.
Donc ça commence par ça, on a
exactement.
La tablette et on nous pose quel type de questions. Vous dites hygiène de vie, c'est-à-dire vous...
Oui, est-ce que vous fumez? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que les règles sont régulières? Est-ce que dans votre famille, il y a des antécédents, par exemple, de ménopause précoce? Est-ce que vous avez déjà été opéré sur les ovaires ou autre? Et puis après, on pose...
Des maladies sexuellement transmissibles?
Exactement,
aussi,
c'est très important, les maladies sexuellement transmissibles. Ça peut entraîner des obstructions des voies génitales.
Lesquelles, par exemple?
Les MST, comme par exemple le chlamydia. Hein. Donc,
c'est fréquent, ça, oui.
Alors, c'est la cause la plus fréquente d'obstruction des trompes chez la femme. Oui.
Ah oui, donc ça, il faut savoir effectivement s'il y a eu ce genre
donc,
de problème-là avant.
Si on a eu une infection active, on a vu un médecin à un moment, on a eu un antibiotique, on a été traité, mais le plus souvent, le germe ne parle pas du tout, donc on ne sait pas qu'on est atteint et ça peut finalement grignoter les trompes doucement.
Jimmy ?
Et puis l'urgence n'est peut-être pas la même en fonction de l'âge. Si on a 20 ans, on n'est pas peut-être un peu moins dans l'urgence que si on en a 37, 38 ou 39. Mais du coup, est-ce que derrière, vous faites des examens complémentaires après le questionnaire ?
Alors, donc, après le questionnaire, on a l'échographie qui va faire un bilan complet de la fertilité. Donc, c'est ça la nouveauté qui nous a permis finalement de monter ce check-up. C'était d'avoir à disposition un seul examen qui est rapide, qui est non douloureux pour faire un bilan de fertilité complet. C'est-à-dire qu'un bilan de fertilité, donc, ça n'existe pas puisqu'en France, on ne traite que des gens qui sont malades. Donc, on parle de bilan d'infertilité. Mmh. Et dans le bilan d'infertilité, eh bien, il y a une radio des trompes, qui est un examen qui est quand même assez douloureux, une prise de sang pour vérifier les hormones et puis une pour voir l'utérus, etc. Et avec le développement des techniques, nous, on a pu mettre l'ensemble des éléments qu'on voyait avec tous ces examens dans une seule échographie qui prend à peu près 25 minutes à réaliser. On utilise une mousse spéciale qui fait très blanc l'échographie. On arrive à voir...
Vous injectez en fait cette mousse? Comment vous
Exactement.
Faites
Donc en fait, l'examen est en deux temps. On fait une échographie, puis après, on va faire un examen gynécologique. On va mettre un petit tuyau à l'intérieur avec une petite mousse qui va directement s'expandre dans les trompes. Donc, on va infuser doucement la mousse et on va pouvoir la suivre à l'échographie pour voir si les trompes ne sont pas bouchées. Ça s'appelle l'hyphosie.
D'accord. Vous dites à l'intérieur, on est d'accord aussi, vous savez, on peut utiliser tous les termes, c'est à l'intérieur du vagin, hein. On ne passe pas par les voies veineuses ou je ne sais quoi,
non,
ça passe par le vagin, par les voies naturelles.
Tout se passe dans le vagin, à la fois l'échographie et puis l'examen avec le petit tuyau, oui.
Avec l'échographie, vous regardez quoi précisément? L'état des ovaires aussi peut-être? Je ne sais pas si on peut voir quelque chose à l'échographie
d'intéressant. Ah oui, on voit très bien.
Qu'est-ce qu'on peut voir par exemple?
Alors on voit la réserve, ce qu'on appelle la réserve des ovaires, ce qu'on voit aussi sur les tests hormonaux, les prises de sang. Donc on va pouvoir voir si un ovaire est normalement riche ou excessivement riche. Ou au contraire, avec un nombre faible d'ovules. En l'occurrence, on ne voit pas les ovules. À l'échographie, on voit les follicules. Mais dans un follicule, en gros, il y a un ovule. Et donc, on va pouvoir être alerté chez, en fonction de l'âge de la femme, si une certaine femme a un nombre de follicules qui est un petit peu en dessous de ce qu'on attend à son âge et pour le coup, s'inquiéter peut-être.
Juste pour qu'on comprenne bien, on voit quoi, par exemple, chez une femme de 25 ans, quand il n'y a pas de problème, il y a quoi à l'échographie? Et moi, j'en ai 37, j'imagine que c'est moins bien déjà.
Voilà, exactement. Donc on va dire que une jeune femme d'une trentaine d'années, on va avoir une quinzaine de follicules de chaque côté. Une jeune femme de 40 ans, on verra plutôt 7-8 follicules de chaque côté.
Et ça, c'est la réserve ovarienne.
Ça, c'est ce qu'on appelle la réserve ovarienne, tout à fait.
Mais il y a une prise de sang aussi, vous disiez?
Alors nous, on ne fait pas la prise de sang, puisque cette réserve ovarienne vue à l'échographie donne les mêmes informations que la prise de sang. En l'occurrence, ce qu'on fait, c'est une prise de sang, un taux d'AMH, d'hormones antimullériennes, qui permet de dire la même chose.
Jimmy?
Et on est d'accord qu'on ne vous amène pas la jeune fille de 16 ans, juste pour voir si tout va bien et être sûr qu'elle aura peut-être des bébés plus tard?
Non. Non, non. Il faut quand même qu'il y ait un désir de grossesse à un moment, un jour dans la vie. Voilà.
Et que la femme se vierge ou pas, est-ce que ça change quelque chose? Vous avez parlé de sondes et d'échographies où vous injectez. Enfin, voilà, on passe par le vagin, donc s'il y a un hymen, est-ce qu'on peut quand même faire ce test?
Oui, alors ça, c'est vraiment très amusant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et notre première femme qui s'est présentée au check-up était effectivement vierge. Et donc, nous n'avons pas réalisé l'examen par voie vaginale, mais on lui a quand même donné tous les conseils qui pouvaient aller à côté.
Parce qu'une fois qu'on a fait cet examen, vous revoyez donc la patiente, le questionnaire est passé, vous avez fait l'examen médical. Qu'est-ce que vous donnez comme résultat? Vous ne leur dites pas, bon, bah, vous avez 30% de risque de stérilité ou je sais pas, il n'y a pas un score. C'est quoi la fin de l'examen? C'est quoi la conclusion finalement cette consultation?
C'est une très bonne question. Et effectivement, la première chose, c'est que je ne fais pas de prédication. Donc je ne suis jamais capable de dire, et je pense que personne n'est capable de le dire, si une femme, telle femme, aura un enfant ou non un jour dans sa vie. Et donc ce qui est important dans notre test, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de blocage à une fertilité, qui pourrait amener soit à consulter plus tôt quand on n'arrive pas à avoir un bébé, soit à faire des traitements médicaux et chirurgicaux. Et puis aussi de donner une estimation de la situation en termes de réserve des ovaires pour savoir si on a en quelque sorte toute la vie devant soi, en
ou
tout cas la vie
presser,
reproductive,
trouver vite le
pour faire
charmant.
Son bébé, ou si effectivement il ne faut pas traîner, ou à ce moment-là, effectivement, discuter l'idée de congeler ses ovules.
Jimmy?
Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu d'autoconservation des gamètes. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est? Et pour l'instant, je crois que ce n'est pas trop possible chez tout le monde en France.
Non, alors, donc effectivement, aujourd'hui, donc c'est régulé par la loi, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a une possibilité pour les hommes de préserver leur fertilité en faisant une congélation du sperme. Ça n'existe pas pour la femme, sauf si on a une maladie particulière, donc par exemple avant un traitement anticancéreux ou dans certaines maladies comme par exemple une endométriose avec une atteinte des ovaires où on sait que la réserve des ovaires risque de diminuer plus rapidement.
Dans ces cas-là, pourrait changer, hein, je crois.
Voilà, dans ces cas-là, c'est une infertilité, une préservation d'origine médicale. Mais de faire une conservation des ovules quand tout va bien, ce n'est pas autorisé dans la loi aujourd'hui et les femmes vont à l'étranger puisque ça se fait à l'étranger. Mais on a bon espoir. Donc il y a la loi de bioéthique est en cours de discussion en ce moment au Sénat. Elle avait été la petite loi qui avait été écrite à la suite des discussions à l'Assemblée nationale avait mis l'autoconservation des ovocytes.
On suit ça de très près. Voilà. Ça va revenir bientôt à l'Assemblée. Là, c'est au Sénat, mais ça va revenir à l'Assemblée après.
On espère et que ça soit suffisamment ouvert pour que ça puisse se réaliser parce que pour l'instant, l'Assemblée nationale l'avait limité au centre public, à certains centres publics, donc finalement avec un accès moindre pour les femmes en France. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit accessible largement sans en faire pour autant la publicité.
Pour terminer cette émission, votre fertilité check-up, combien ça coûte et est-ce que c'est pris en charge par l'assurance maladie?
Alors, c'est pas pris en charge par l'assurance maladie. On le fait payer 350 euros. C'est un tarif qu'on a fixé en fonction du temps médical passé et technique.
Oui, c'est quand même deux heures, bien sûr.
Voilà, exactement. Bon, ce qu'on espère, c'est que ça puisse peut-être faire partie un jour d'un bilan proposé par la Sécurité sociale. Il y a des bilans de prévention qui sont proposés. Et donc, pourquoi pas parler de la fertilité et proposer un test quand il y a des éléments qui font que ça pourrait être utile pour la femme et son projet de vie.
Merci beaucoup, professeur Massé. Bastin d'être venu sur notre plateau nous donner tous vos bons conseils en matière de fertilité. Merci encore. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
On a une question, vous allez y répondre. La question que nous a posée Sébastien, 27 ans. Avec ma copine, nous sommes ensemble depuis 3 mois et elle se refuse encore à moi. Soudain, c'est ok, mais pas de chance le jour où je ne peux pas, car encombrée par un petit symptôme pas très agréable. C'est à mon sens l'expression de notre incompatibilité. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'ils sont incompatibles ?
Alors, ils sont incompatibles, en tout cas pas dans leurs difficultés manifestement, puisque il y en a un qui ne veut pas, ne peut pas, pour, ou n'est pas encore prête pour elle, et puis lui, tout d'un coup, qui ne l'est pas quand elle l'est tout soudain. Alors on peut se poser la question, est-ce que chacun s'organise pour se louper ? Et chacun témoigne très justement de sa difficulté aussi, malgré son désir affirmé de sa difficulté à oser la relation et oser la rencontre et la pénétration, où on peut aussi se dire qu'elle n'était jamais aussi prête que quand elle savait qu'il ne l'était pas. Ce qui veut dire que c'est plutôt elle qui est en difficulté dans l'idée de pouvoir faire l'amour et qu'elle a besoin, quand elle n'est plus elle le symptôme qui ne peut pas, besoin de l'autre et du symptôme de l'autre pour pouvoir s'exprimer et lui transmettre la patate chaude en quelque sorte à l'autre.
Il dit, Sébastien, que ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble avec sa copine et il dit, depuis 3 mois, elle se refuse à moi. Donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de rapport sexuel. C'est pas bizarre de ne pas avoir couché ensemble au bout de 3 mois à 27 ans ?
Il n'y a pas d'obligation. Je crois que les relations ont besoin aussi parfois de temps pour se construire. Évidemment que dans notre monde moderne, on ne se donne absolument pas le droit à l'attendre. On n'attend plus nulle part. Et on ne supporte pas d'attendre. On veut dans l'immédiateté, y compris dans les livraisons de tout qui arrivent à domicile. Donc je crois qu'il y a cette idée que du coup, si on est ensemble, c'est qu'on a envie l'un de l'autre et donc on le fait. On peut aussi avoir envie de construire de la relation sans être complètement d'une vieille époque.
Jimmy ?
Mais il nous pose la question, donc c'est bien, on peut y répondre, mais il ne devrait pas simplement lui en parler. Est-ce qu'on ne doit pas le dire tout simplement pourquoi
Jimmy,
on ne
le fait
pas ?
Jimmy, c'est l'homme de la communication, il faut en parler.
Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Et puis peut-être que là, on ne sait pas, elle est peut-être vierge et qu'elle n'a jamais eu de rapport et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce frein.
Oui, ça peut être effectivement pour ça. Donc effectivement, elle n'a peut-être pas raconté ce qui est à l'origine de sa difficulté. Alors que ça peut être parce qu'elle est vierge ou ça peut être parce qu'elle a des histoires douloureuses passées avec l'idée qu'à chaque fois que le passage à l'acte se fait, c'est un investissement et avec une douleur plus grande. Quand elle est quittée et donc elle retarde pour créer quelque chose qui noue la relation mais à la fois de façon peut-être un peu maladroite en effet. C'est vraiment d'un couple à l'autre, il y a quand même des générations entières qui se sont construites sur la base du flirt long jusqu'au mariage et encore aujourd'hui pour ceux qui sont religieux pratiquants n'allant dans le mariage qu'après, la sexualité qu'après le mariage, donc ce qui veut dire un très long temps entre les fiançailles, les rencontres, les fiançailles et le mariage. Donc il n'y a pas quelque chose d'anormal, si ce n'est que notre société va un peu plus vite aujourd'hui, en effet.
Sinon, pourquoi de toute façon la copine de Sébastien, elle se refuserait, elle éviterait les rapports sexuels ? Il doit s'interroger finalement sur lui ou sur elle, Sébastien, qui pose la question ?
Je crois, comme le disait Jimmy, je crois qu'il faut qu'il pose la question, quelle est sa difficulté. Mais après, il peut aussi se poser la question lui-même, qu'est-ce qui fait qu'il faut que ça arrive maintenant et tout de suite ? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me frustre, ou à l'inverse, qu'est-ce qui fait que ça fait 3 mois que je suis avec quelqu'un qui me frustre ? Et ça peut raconter une histoire personnelle tout à fait autre et que je n'utilise que quelqu'un qui ne peut pas pour pouvoir m'exprimer finalement.
Jimmy ?
Est-ce qu'on peut être incompatible sexuellement ? C'est-à-dire qu'on a une relation qui va très bien amoureuse et finalement, une fois le passage à l'acte, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut qu'on se pose la question de est-ce qu'on est compatible ?
Je crois que les relations, en effet, parlent de compatibilité. Est-ce que c'est une compatibilité au niveau corporel ? Non, tous les corps sont prêts et capables de s'emboîter. Mais effectivement, émotionnellement, les choses sont un peu plus complexes. Et des couples s'organisent et se marient d'ailleurs et vivent longuement ensemble tout en étant parfaitement incompatibles. C'est-à-dire que la pudeur de l'un a alimenté la pudeur de l'autre et l'inhibition de l'autre. Et à ce titre, sexuellement, ils sont incompatibles parce que leur deux peurs a été exponentielle. Pour autant, ils peuvent être socialement tout à fait dans une cohérence.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve lundi dans un instant. Vous retrouvez Philippe Googler avec son émission « Et si on partait ?» 2 heures d'évasion, 2 heures de voyage au bout du monde, mais aussi en France. Vous allez vous régaler, j'en suis sûre. Alors je vous souhaite une très belle émission.